It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'édition de la nuit à la une de l'actualité. Après de longues tractations, le Congrès américain a adopté un plan d'aide à l'Ukraine et Israël. Une enveloppe de 95 milliards de dollars réclamée depuis des mois par le président Biden. On fera le point avec notre correspondante à New York. On reviendra sur cette nouvelle attaque à Grande-Synthe dans le Nord. Un adolescent de 15 ans a été agressé ce samedi. Il s'agit d'un cousin d'un des deux mineurs mis en examen pour l'assassinat de Philippe. Vous entendrez la colère des habitants. Légère baisse des atteintes à la laïcité à l'école. 1731 faits ont été signalés au cours de ce deuxième trimestre scolaire contre plus de 3000 le précédent. Les détails à suivre du bilan publié par l'équipe académique Valeurs de la République. Et puis une portion de l'autoroute A13 est fermée dans les deux sens, au moins jusqu'à lundi. Un mouvement de terrain a causé une importante fissure au niveau de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Les automobilistes sont invités à prendre d'autres itinéraires. Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit à la une de l'actualité. Une aide très attendue par l'Ukraine a franchi une étape clé au Congrès américain. La Chambre des représentants a adopté ce samedi une enveloppe de 61 milliards de dollars. Cette assistance militaire et économique doit désormais être approuvée au Sénat. On fait le point avec Fanny Chauvin, notre correspondante à Washington.
Après ce vote, des drapeaux ukrainiens ont flotté au sein de l'hémicycle. Un rare moment de joie après des mois de tensions au sein du Congrès. Eh bien, les États-Unis réaffirment leur soutien à Kiev avec cette enveloppe d'aide de 61 milliards de dollars. Alors, que contient-elle? Eh bien, elle comprend une assistance militaire et économique à Kiev. Elle va notamment permettre de financer un système de défense anti-aérien, car il faut le dire, la Russie prend l'avantage dans les airs avec ses attaques de drones et de roquettes. Cette aide, elle va aussi permettre à Joe Biden de saisir et de vendre des actifs russes pour permettre la reconstruction de l'Ukraine. Mais ce vote n'était pas seulement limité à l'aide ukrainienne. En effet, les élus ont aussi voté une enveloppe d'aide à Israël, 26 milliards de dollars. Ces fonds vont permettre de renforcer son système de antimissiles, le fameux d'homme de fer qui a été mis à l'épreuve lors de l'attaque de drones iraniens la semaine dernière. Le président américain s'est félicité de ce vote après des mois et des mois de tensions au Congrès. En effet, les élus trumpistes s'opposaient à ce plan d'aide. Aujourd'hui, Joe Biden a réagi. Ce vote, pour lui, envoie un message clair de leadership américain dans le monde. Joe Biden qui promulguera ce texte après le vote final du Sénat.
Et Volodymyr Zelensky s'est aussitôt félicité. Cette aide américaine sauvera des milliers de vies, selon le président ukrainien. Il s'est dit reconnaissant envers les élus américains à l'issue du vote. Écoutez.
Aujourd'hui, nous avons reçu la décision que nous attendions, le soutien américain pour lequel nous nous sommes tant battus. Il s'agit d'un ensemble de mesures très importantes qui seront ressenties par nos soldats sur la ligne de front, ainsi que par nos villes et villages qui souffrent de la terreur russe. Aujourd'hui, la Chambre des représentants des États-Unis a voté. Merci à tous ceux qui ont soutenu notre paquet d'aide financière. C'est une solution qui permettra de sauver des vies.
Toujours dans le volet international, le chef du Hamas, Haniyeh, a été reçu par Erdogan à Istanbul. Après leur rencontre ce samedi, le président turc a appelé les Palestiniens à l'unité. Il souligne l'importance d'agir de façon à conserver la tension sur Gaza. Il l'assure également, la Turquie poursuivra son aide humanitaire à la Palestine. Je vous le disais dans les titres, le cousin d'un suspect dans le meurtre de Philippe a été agressé. Ça s'est passé ce samedi à Grande-Synthe dans le Nord. Il a été victime de violences aggravées. Pour les habitants de la commune, la justice doit sévir. Tancrède Guillotel et Pierre Emco.
Un adolescent de 15 ans agressé dans la nuit de vendredi à samedi à Grande-Synthe. Retrouvé sur la chaussée sans son survêtement et ses baskets, il a été transporté à l'hôpital. Selon la procureure de Dunkerque, il a été victime de violences aggravées, entraînant une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Une nouvelle agression à Grande-Synthe qui interroge. La victime est le cousin de l'un des deux mineurs mis en examen vendredi pour l'assassinat de Philippe Kopman en début de semaine. Placés en détention provisoire, ces deux mineurs, âgés de 14 et 15 ans, sont déjà connus des services de police.
Le mineur de 14 ans a été déclaré coupable pour des faits de violence commis en juillet 2023, août 2023 et décembre 2023. Le mineur de 15 ans, pour sa part, a été condamné pour des dégradations commises en mars 2022. Il a par ailleurs été déclaré coupable de faits de vol en réunion commis en août 2023.
Pour les habitants, ces mineurs doivent être sévèrement sanctionnés.
Qu'ils soient jugés, oui, parce qu'ils n'en sont pas à leur premier fait.
Ils devraient être sévèrement punis parce qu'actuellement, on n'entend que ça, les agressions des jeunes.
En plus, c'était carrément prémédité. Ils devraient être jugés comme des adultes.
Les deux mineurs ont affirmé avoir fixé un rendez-vous avec la victime via un site de rencontre en se faisant passer pour une jeune fille mineure. Selon la procureure de Dunkerque, il existe des raisons de penser qu'il s'agit d'un meurtre aggravé par la circonstance de guet-apens.
Une messagerie en ligne fait à nouveau polémique depuis l'assassinat de Philippe. Son nom, Coco, elle est citée dans plusieurs affaires de trafic de drogue ou encore de pédocriminalité. C'est via ce canal qu'un guet-apens aurait été tendu à l'homme de 22 ans. Charles Pousseau et Corentin Alonso.
Une messagerie en ligne totalement gratuite. La démarche est plus que simple. Un pseudonyme suffit, avec un âge et un code postal non vérifié. En 10 secondes, on peut commencer à discuter avec n'importe qui. Ce site fait polémique après l'assassinat de Philippe à Grande-Synthe. Selon une hypothèse encore à vérifier, le jeune homme de 22 ans aurait été la cible d'un guet-apens tendu via ce site.
Une enquête est en cours à propos d'autres agressions commises dans des circonstances similaires, après des rendez-vous fixés sur le site Cocoland. J'invite d'ailleurs toute personne qui aurait été victime d'une agression ou d'une tentative d'agression dans les mêmes circonstances à se manifester.
Faut-il alors interdire l'anonymat sur Internet ?
Je ne suis pas certaine qu'on mesure réellement la portée de ce type de mesure. Car il faut noter que les données que nous diffusons en ligne sont détenues et traitées par des acteurs privés et souvent étrangers. Donc, obliger des citoyens à associer leurs données à leur véritable identité, cela revient aussi à donner un pouvoir de fichage considérable à des plateformes privées.
Une pétition a été lancée en 2019 pour la fermeture du site. Elle a recueilli depuis près de 20 000 signatures.
On reste en France. Un imam de Toulouse a été expulsé vers l'Algérie. Il a été condamné pour provocation à la haine et à la violence envers la communauté juive. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, le rappelle. La protection de la France et des Français est ma priorité. Noémie Schulz.
Une expulsion rendue possible par la condamnation définitive de l'imam pour provocation à la haine et à la violence envers la communauté juive. Les propos avaient été tenus en 2017 lors d'un prêche. Il était question de bataille finale et décisive entre les juifs et les musulmans. Des propos signalés par le préfet de Haute-Garonne qui avait valu à l'imam, installé en France depuis le milieu des années 80, d'être renvoyé devant la justice. Il avait d'abord été relaxé en première instance, puis condamné à 4 mois de prison avec sursis en 2022. Lors de son procès, il avait pourtant assuré que son prêche n'invitait pas les musulmans à combattre les juifs et les israéliens, mais qu'il était au contraire un avertissement aux musulmans. Les avocats des associations qui s'étaient constituées partie civile avaient de leur côté expliqué que de telles paroles pouvaient être à l'origine de passages à l'acte violent. Après sa condamnation, l'imam algérien avait formé un pourvoi en cassation, rejeté en décembre dernier. La condamnation est donc devenue définitive, ce qui avait ouvert la voie à son expulsion. Quelques jours seulement après la signature d'un arrêté par le ministre de l'Intérieur, l'imam a été interpellé chez lui et immédiatement renvoyé en Algérie. Ses avocats ont dénoncé une expulsion manu militari pour éviter que la justice ne suspende l'arrêté. Ils ont saisi le tribunal administratif de Paris qui examinera cette requête lundi.
Rima Hassan est convoquée par la police pour apologie du terrorisme. La candidate La France Insoumise aux Européennes dénonce des manœuvres purement politiciennes. Sa désignation à la 7e place de la liste conduite par Manon Aubry a provoqué de vives réactions dans la sphère politique. Sarah Varny.
C'est une convocation qui fait grand bruit. La candidate insoumise aux élections européennes a été convoquée par la police judiciaire pour apologie du terrorisme. La militante controversée est convoquée le 30 avril prochain afin d'être entendue librement sur des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme.
J'apprends avec stupéfaction cette convocation. Je ne me laisserai pas intimider par des manœuvres purement politiciennes visant à compromettre ma liberté d'expression sur la Palestine.
Les faits qui lui sont reprochés auraient été commis entre le 5 novembre et le 1er décembre, alors que l'activiste franco-palestinienne n'était pas encore investie par la France insoumise. La candidate dit regretter un extrait d'interview tronqué. La France insoumise a rapidement réagi.
Contrairement aux propos qui lui sont imputés, Rima Hassan n'a jamais dit que les actions du 7 octobre étaient légitimes.
Les insoumis dénoncent une tentative d'intimidation au lendemain de la double annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan sur le Proche-Orient à Lille, prévue ce jeudi, en raison d'un risque de trouble à l'ordre public.
On en vient à cette bonne nouvelle pour l'éducation nationale, la baisse des signalements des atteintes à la laïcité. Les équipes des valeurs de la République ont publié un bilan en ce sens ce vendredi. Il concerne le deuxième trimestre de l'année 2023-2024 dans les établissements publics. Aminata Demphal et Mathilde Ibanez.
L'action du ministère et des établissements pour le respect de la laïcité semble porter ses fruits. Avec 1731 faits signalés lors de ce deuxième trimestre scolaire, le ministère de l'Éducation enregistre une baisse de près de la moitié des signalements par rapport au premier trimestre où plus de 3000 atteintes avaient été recensées. En moyenne, sur le second trimestre et d'après les données du bilan, 45,5% des faits ont été signalés dans les collèges, 29,5% dans les lycées et 25% dans le premier degré. Toujours selon ces derniers chiffres, les auteurs de ces faits étaient à 78% des élèves. Et pour la première fois, des suspicions de prosélytisme continuent à la première catégorie d'atteinte avec 19% des signalements. Viennent ensuite les contestations d'enseignement à 16%. Le port de signes est tenu à 14% et les refus d'activité scolaire à 11%. Sur l'ensemble de ces signalements, 87% ont été pris en charge par les équipes académiques Valeurs de la République et plus de 800 actions de prévention ont été menées dans des établissements.
On reste dans la page politique avec ce déplacement d'Emmanuel Macron à la Sorbonne à Paris. Jeudi prochain, le président prononcera un discours sur le thème de l'Europe. Quel point va-t-il aborder ? Élément de réponse avec Élodie Huchard.
C'était un peu l'Arlésienne. L'Élysée n'avait de cesse d'annoncer ce fameux discours sur l'Europe que devait tenir le président de la République. Ça sera donc ce jeudi. Déjà en fin de semaine, le président de la République s'est rendu au QG de la majorité présidentielle aux côtés de Valérie Ayer pour encourager les troupes en vue des européennes. Ce discours qui est donc le discours Sorbonne 2. Finalement, on rappelle qu'en 2017, le président de la République avait tenu un grand discours à la Sorbonne pour parler de sa vision de l'Europe. Il avait dit en tout début de discours, je viens vous parler d'Europe. Et bien sur les réseaux sociaux, il s'exprime de la même manière en disant « Je reviens vous parler d'Europe ». L'avantage, c'est que ce sera un discours avec un peu plus de hauteur. Évidemment, ça n'est pas un candidat. Il ne va pas parler de programme, mais il veut parler de sa vision de l'Europe. Évidemment, avec sa stature de chef de l'État, eh bien, il se pose un petit peu en surplomb. L'idée qu'il participe lui-même directement à un meeting a déjà été envisagée. Cette idée semble s'éloigner parce que le problème, c'est que certes, le chef de l'État veut s'engager. En revanche, on voit bien que la liste de la majorité présidentielle est à la traîne. Il ne faudrait pas qu'il soit tenu comptable de ce mauvais bilan.
Il faudra faire preuve de patience si vous empruntez la A13. L'autoroute est fermée dans les deux sens entre Paris et Vaucresson. Et ce, jusqu'à lundi au moins, en cause d'une importante fissure au niveau de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Arthur Durand et Corentin Alonso.
Sur plusieurs mètres, la fissure traverse l'autoroute. Elle a été découverte lors de travaux programmés dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon une première hypothèse, elle aurait été provoquée par un mouvement de terrain dû à une fuite d'eau.
Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant ? Aller voir ce qui s'est passé dessous. Et bien pour aller voir ce qui se passe dessous, il y a deux bétonnes. La première, on fait un ferrage. Et la deuxième, on fait un trou et puis on met une petite caméra et on va ausculter le terrain et on va faire une radiographie par ultrasons. Ça, c'est tout à fait classique. Et après, ben il faut remblayer et refaire la dalle de béton.
La préfecture des Hauts-de-Seine a décidé de fermer le tunnel de Saint-Cloud.
Fermeture de l'autoroute A13 sur le segment Vaucresson et Paris et dans les deux sens de circulation, confirmée jusqu'au lundi 22 avril inclus. Il convient de reporter tout déplacement conduisant à traverser ce secteur, sauf nécessité.
Pour les automobilistes, la situation risque d'être compliquée. Ici, plus de 120 000 véhicules passent chaque jour direction Paris. Il faudra donc emprunter des itinéraires alternatifs. L'autoroute A14, mais l'option est payante. Autre possibilité conseillée par la préfecture, l'A12 et la N12 en direction de Versailles, puis la N118 pour rejoindre la capitale. La direction des routes d'Île-de-France estime que la 13 pourrait rester fermée jusqu'en milieu de semaine prochaine.
C'est un casse-tête pour les conseils municipaux. D'ici le 1er juin, toutes les communes de France devront avoir donné un nom et un numéro à leur rue. Objectif, constituer une base d'adresse nationale fiable pour les secours ou encore les livraisons de colis. Reportage en Loire-Atlantique de Jean-Michel Decazes.
Varade, entre Nantes et Angers, a été regroupé avec trois autres communes rurales voisines pour donner Loire-Auxances. Le conseil municipal a dû changer les noms de 400 rues pour éviter les doublons. Parfois les lieux-dits ont servi de base, mais pas toujours. Ici, tout le monde se demande d'où viennent les tertreaux.
Les adresses n'ont rien à voir avec les lieux-dits. Ça fait des adresses à rallonge et qui vont rien arranger pour les courriers, cartes grises et tout ça.
La plupart du temps, les habitants tiennent au nom de leur lieu-dit. Certains y sont nés. Pour Michel, c'est son grand-père qui a vu le jour dans cette ferme.
L'historique du village, des noms de village, voilà, ont été sur notre route supprimés. S'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de racines, il n'y a pas, voilà.
Alors qu'est-ce que je vous raconte ?
Et puis, il y a les gros bugs dont l'ancien médecin de la commune a été témoin. À vouloir éviter les doublons, on en crée un.
La route n'avait pas de nom. Et la commune a trouvé bon, il y a quelques mois, de lui donner le nom d'un village qui se trouve sur une autre commune et qui est assez loin d'ici. Si les gens du conseil municipal ne viennent pas sur le terrain, ne connaissent pas le terrain, je ne sais pas qui peut le connaître mieux qu'eux. En principe, ils doivent savoir que le nom qu'ils avaient donné au chemin correspondait à un village qui est à 5 km d'ici.
La municipalité a donc retiré les pancartes pour trouver un autre nom, route de la Grolla.
Tout de suite, place au journal des sports. On démarre avec du football. On ouvre ce journal des sports avec la Ligue 1 et la victoire de Lens face à Clermont. Les Sang et Or se sont imposés 1-0 à domicile. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Florian Sotoka sur pénalty dès la troisième minute de jeu. Après 4 matchs sans succès, les Lensois renouent avec la victoire. Ils poursuivent leur objectif de décrocher une place européenne en fin de saison. Rennes, de son côté, s'impose sans difficulté sur la pelouse de Nantes. Victoire 3-0. Les Rennais ont ouvert le score en seconde période grâce à Kalimuendo. 10 minutes plus tard, Bourigeau va alourdir le score sur pénalty. Amine Gouiri scelle le succès des hommes de Julien Stéphan sur ce centre de Désiré Doué. Rennes remonte à la 7e place au classement. Nantes est 14e. Et de l'autre côté de la Manche, Arsenal retrouve provisoirement son statut de leader de Premier League face à Wolverhampton. Les Gunners sont maîtrisés. La rencontre du début à la fin, une victoire nette et sans bavure, 2-0. Le résumé du match est signé Tom Parago.
Dans l'antre du loup, Arsenal doit se relancer. Après 2 défaites consécutives, la victoire est obligatoire sur la pelouse de Wolverhampton pour continuer à rêver du titre. Mais le début de match est à l'avantage des Wolves. David Raya sauve son équipe face à Joao Gomes. Juste avant la pause, Arsenal finit par répliquer.
Pour l'instant, Paul Tierney ne dit rien. Il suit cette action avec attention. Et cette frappe somptueuse.
Deuxième période, les hommes d'Arteta repartent à l'attaque. Kaya Wertz frappe de volée, José Sa est vigilant. Il faut attendre le temps additionnel pour voir les Londoniens faire enfin le break.
Declan Rice, Havertz, Ødegaard et ce centre repoussé par Totti. Et Martin Ødegaard dans un angle impossible qui vient permettre à Arsenal de mettre KO Wolverhampton. La rédemption, elle est totale de la part d'Arsenal.
Arsenal s'impose 2-0 à Molineux et met la pression sur ses rivaux, Manchester City et Liverpool. Les Gunners comptent provisoirement 1 point d'avance sur les Citizens et 3 points sur les Reds.
En football féminin, les Lyonnaises ont renversé les Parisiennes dans les dernières minutes de la demi-finale aller de Ligue des Champions. Tout avait pourtant bien commencé pour le PSG qui menait 2-0 grâce à un doublé de Katoto à la 48e et à la 44e minute de jeu. Mais dans les 10 dernières minutes, Lyon va tout renverser. 3 buts signés Diani, Dumornay et Magerie. Match retour prévu dimanche prochain au Parc des Princes. En rugby, Toulon confirme son retour en forme en top 14. Dans un vélodrome bouillant, le RCT a battu une équipe toulousaine remaniée. Victoire 20 à 19. Les Toulonnais enchaînent avec un troisième succès de rang et consolident leur place dans le top 6. Une place synonyme de qualification pour les phases finales. Le résumé de la rencontre avec Jérémy Pavlovitch.
Un vélodrome en rouge et noir pour une soirée de gala. Les Toulonnais accueillent des Toulousains qui ne les ont plus battus depuis 2016 dans l'enceinte marseillaise. Les Varois y ont remporté les 6 derniers face-à-face et comptent bien étendre la série. Pourtant, ce sont leurs adversaires qui frappent les premiers.
Netti qui va les chercher sur l'aile, laisser pour Tozin.
Première grosse occasion, premier essai Toulouse réaliste, mais Toulon réactif. Réponse quasi immédiate. Fainga Nkou fait parler sa vitesse et sa puissance pour ramener les siens à hauteur. Après un premier quart d'heure très animé, nos rythmes retombent. Pas la tension, en témoigne ce plaquage haut d'Alain Ouessé sur Castro Ferreira. Les Varois sont réduits à 14 avant la pause, mais n'abdiquent pas au retour des vestiaires.
Avec Nkou qui a donné à Fainga Nkou dans l'intervalle. Personne ne peut l'arrêter. Il va aller derrière la ligne. Il est marqué. Le deuxième essai des Toulonnais.
L'infériorité numérique finit toutefois par peser trop lourd. 75e minute, essai de Merkler en force. Mais Ramos manque la transformation, son troisième échec de la soirée. Toulon tient jusqu'au bout, 20-19, et reste maître du vélodrome.
C'est la fin de cette édition. À suivre un nouveau journal avec à la une. Après de longues tractations, le Congrès américain a adopté un plan d'aide à l'Ukraine et Israël, une enveloppe de 95 milliards de dollars au total, réclamée depuis des mois par le président Biden. On fera le point avec notre correspondante à New York.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.